heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère. Et vous savez, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que l'émission est rediffusée systématiquement tous les jeudis de 10h à 11h et que vous pouvez la retrouver évidemment sur le podcast de la Radio Galère sur le site www.radiogalere.org. Voilà. Et comme d'habitude, je remercie Roselyne, ma complice qui est là, et puis je remercie Sidi, qu'on retrouve avec plaisir.
Bonjour.
Bonjour Sidi, dans la cabine technique.
Bonjour.
Pour parler de l'actualité internationale. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe en Ukraine, parce que de toute façon, ce qui se passe en Ukraine dépasse d'abord très largement l'Ukraine et est au cœur d'une réorganisation de l'économie et de la société mondiale dont on va assez rapidement commencer à voir les linéaments et les lignes de force. Et donc, on en reparlera et on ne peut pas passer à côté. Mais il y a quand même un certain nombre d'autres nouvelles sur lesquelles je veux m'arrêter pour commencer. Je vais d'abord vous parler d'une visite du président Bachar el-Assad, le président syrien, qui, pour la première fois, à l'exclusion d'un voyage surprise qu'il avait fait à Moscou, a quitté son pays de façon tout à fait officielle et est allé dans les Émirats arabes unis rencontrer le personnage principal, donc M. Mohamed Ben Zayed, bien connu. Alors pourquoi les Émirats arabes unis? Parce qu'effectivement, les Émirats arabes unis étaient d'accord pour le recevoir et c'était plus facile pour les Émirats arabes unis d'avoir une attitude plus positive vis-à-vis de la Syrie que par exemple pour l'Arabie saoudite qui s'est tellement impliquée à la fois dans le soutien aux Libanais, dans le soutien à Israël, dans la reconnaissance d'Israël et tout, et dans le soutien aux djihadistes sur le sol syrien, que c'est un peu plus difficile que les contacts se renouent sur des bases plus simples. Mais donc c'est un signe qui ne trompe pas. Les Émirats arabes unis ont reçu le président Bachar el-Assad et on s'est parlé entre frères, puisqu'il s'agit de deux membres de ce qu'on appelle la Ligue arabe, donc l'association de tous les pays arabes. Ça, c'est une première nouvelle qui aura sans doute des suites. C'est intéressant, mais c'est une ouverture. Ça veut dire, d'une part, je rappelais le voyage impromptu donc, de Bachar el-Assad en Russie. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était risqué, c'est-à-dire que le risque de faire un vol aérien avec le président de la République arabe syrienne dedans, c'était risqué un tir de missile. Bon, si donc ce voyage a eu lieu vers les Émirats arabes unis, c'est que la sécurité aérienne du président syrien est beaucoup mieux garantie qu'elle pouvait l'être à l'époque. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas sur l'amélioration des relations internationales dans la région. On y reviendra sans doute plus la prochaine fois. Un autre sujet que je voulais aborder rapidement, on a évoqué donc les débuts du nouveau président de la République chilienne, M. Gabriel Boric, et on sent bien que la partie va être difficile, à des petits signes. Alors, pourquoi elle va être difficile? Parce que d'une part, l'appareil d'État n'est pas transformé, c'est le même personnel qui était là il y a 3 mois, donc c'est un personnel qui est encore à peine sorti des affres du bipartisme, lui-même issu de la dictature de Pinochet, et donc par exemple, il y a eu des manifestations au Chili, et la police s'est avérée redoutablement méchante et agressive. Bon, elle est comme elle était il y a 6 mois ou il y a 1 an, hein. C'est-à-dire que le nouveau président n'est pas en capacité, s'il en a la volonté politique, ce que je souhaite évidemment, n'est pas encore en capacité d'améliorer le fonctionnement de l'appareil d'État dans un sens de respect des droits démocratiques. Le deuxième signe dans ce sens, c'est que la droite mène une campagne effrénée pour dire que l'Assemblée de préparation à la Constitution ne sert à rien. Alors vous savez, le schéma qui a été mis en place, il a été élu dans des conditions régulières et sans qu'il y ait de problème, une assemblée qui est destinée à rédiger un projet de constitution. Donc ce n'est pas une assemblée constituante, c'est une assemblée, j'allais dire, pré-constituante, qui rédige un projet de constitution que le président pourra ou ne pourra pas, d'ailleurs, soumettre à référendum. Donc c'est un travail préparatoire et rien que ça, ça gêne déjà beaucoup la droite qui dit qu'il va sortir de cette assemblée qui ne sera pas un texte définitif applicable mais un texte dangereux sur lequel il va falloir mener à nouveau une campagne, si elle a lieu, pour dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Et ça, elle n'y tient pas. D'où des attaques répétées contre cette assemblée constituante qui a ce défaut. pour eux. C'est que une bonne partie, même la majorité des élus, sont des gens qui ne viennent, j'allais dire, de nulle part. C'est pas monsieur tout le monde de la rue. Mais ils viennent pas des grands partis classiques, c'est-à-dire on sait pas par où les attraper, on sait pas ce qu'ils ont, on sait ce qu'ils ont dans la tête. Mais ils sont mal contrôlés. Mal contrôlés dans des appareils de pouvoir classiques. Et c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange parce qu'il peut sortir de cette assemblée préconstituante des propositions très, très avancées. Beaucoup plus peut-être que si elles émanaient de partis déjà bien installés, avec des ramifications, mais avec aussi des compromis de pouvoir ici et là. Bon. C'est ça qui se passe. Donc la partie de M. Gabriel Boric est difficile. Souhaitons qu'il en soit conscient et qu'il ne se laisse pas impressionner par ses premières difficultés. Il y en aura évidemment d'autres. C'est tout à fait clair. Au titre des difficultés, c'est anecdotique, mais ça mérite d'être dit. Et puis ça donnera des éclairages sur d'autres phénomènes qu'on va évoquer au cours de l'émission. Vous savez donc qu'il y a eu des primaires pour les élections présidentielles de Colombie qui vont se tenir à l'automne. Il y a eu des primaires dans chaque camp. Et dans le camp de M. Gustavo Petro, qui porte l'espoir de la gauche colombienne, qui a été maire de Bogota, enfin qui est un monsieur qui a une certaine assise, qui a été très, très bien élu dans sa primaire, le numéro 2, puisqu'il y avait plusieurs candidats à cette primaire, le numéro 2 est une fille d'esclave, noire, mais noire que c'est pas possible. Et donc, il y a beaucoup de. Elle sait ce qu'elle veut, elle est, disons, radicale. Oui, elle sait dans quelle situation vit la population colombienne, elle sait ce que c'est que les exactions des groupes paramilitaires, etc. Elle le dit. Et c'est elle qui a fait le deuxième score sur la liste de gauche, qui ne sont que des préalables, donc, puisqu'il s'agit de primaires dans la gauche. Et le débat qui a lieu, je vous le cite parce que c'est très intéressant sur ce qui se passe, pas que là, dans le monde entier. C'est-à-dire, est-ce qu'une noire peut être une bonne candidate? Parce que je rappelle, je souligne que la Constitution colombienne prévoit un ticket pour les présidentielles. C'est-à-dire, comme aux États-Unis, il y a un candidat et un candidat pour la vice-présidence. Donc, vu le score qu'elle a fait aux primaires, normalement, le poste lui échoit. Et là, il y a une véritable crise au sein de la gauche colombienne pour dire « Ah oui, mais si on la met elle, on perd les élections. » Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça met le doigt sur des rapports de race sur lesquels on va revenir à propos de l'Ukraine, mais qui sont en train de prendre beaucoup d'acuité dans la situation actuelle et qui explique aussi que, regardons les choses, parce que je ne vais pas parler de l'élection présidentielle française qui est un espèce de non-événement, mais si on veut la regarder en termes de potentiel électoral, sans passer sur les personnages, il faut bien se rendre compte qu'entre une partie des voix de Mme Pécresse, les voix de M. Zemmour et les voix de Mme Le Pen, on a une extrême droite qui est autour de 40% des suffrages, ce qu'on n'a jamais vu dans notre pays. Et la base, enfin, derrière ces suffrages d'extrême droite, il y a tout un fond de racisme, de néocolonialisme, dégoût pour celui qui n'est pas d'ici, celui qui vient d'un autre continent et tout. C'est ça la donnée. C'est ça. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des présidentielles. Mais par ailleurs, les présidentielles françaises, je n'ai pas envie d'en parler, parce que c'est inintéressant. C'est un non-événement. Il n'y a aucun candidat qui donne de l'espoir. C'est tout. Bon, mais chacun pense comme il veut.
Il n'y a aucune affiche sur les présidentielles dans les rues.
Non, mais j'ai jamais vu ça. Soit tout le monde considère que de toute façon, c'est joué, on perd son temps. Soit on n'ira pas voter parce que ça ne veut rien dire. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'enthousiasme populaire et on n'a pas vu des meetings avec des dizaines de milliers de personnes jusqu'à présent. Et il n'y en aura probablement pas. Hein. Et, alors, ça peut être ça parce qu'il est dit, allez, j'en dis encore un mot, que du côté de M. Larcher, le président du Sénat, qui est quand même un fin observateur de la vie politique, il dit « c'est ça qui est inquiétant ». Ce n'est pas qu'il y en ait un devant l'autre, c'est que le fait qu'on soit peut-être devant une espèce de reflux de l'intérêt populaire pour les élections. Et ça, c'est dangereux pour les gens du pouvoir. Si le peuple ne croit plus aux élections, il va peut-être croire à autre chose. Voilà. D'où la question de M. Larcher, que je vous livre, mais qui, je pense, est fondée. Bien, je ne m'attarde pas plus sur la situation française et je vous dis quelques mots, on va commencer par ça, de ce qui se passe, enfin, il ne se passe rien pour ça, mais de ce qui va se passer en Irlande. Alors en Irlande, vous savez, je vous rappelle, donc une république irlandaise née d'une lutte armée donc dans les années de la fin de la Première Guerre mondiale, gagné par les républicains irlandais avec beaucoup de difficultés. Donc il se crée une République d'Irlande qui est républicaine, donc qui a rejeté Sa Majesté britannique, la religion de Sa Majesté, donc l'anglicanisme, etc. Donc il s'est affirmé dans le catholicisme, mais aussi dans l'indépendance républicaine. Alors, ça se termine pas mal, puisqu'il y a quand même un succès. Cette République existe toujours. Elle est dans l'Union européenne, mais d'une façon un peu particulière, puisqu'elle refuse d'être dans l'OTAN, ce qui est un cas assez rare dans les pays membres de l'Union européenne. Mais l'Angleterre n'a pas tout perdu, puisqu'en 21, quand elle laisse partir la plus grosse partie du territoire irlandais, elle garde un morceau, qui est l'Irlande du Nord, l'Ulster, qu'on connaît bien, où là, l'armée britannique a sa place, où la religion anglicane est dominante, d'où la haine pour les catholiques qui habitent sur ce territoire. Donc il y a une division de cette Irlande qui historiquement est une parce que le colonisateur n'a pas voulu tout lâcher. Et il va y avoir donc des élections en Irlande récemment, et je me base sur une interview d'une personne que vous connaissez sans doute pas, mais qui s'appelle Martina Anderson, qui est donc une représentante du Sinn Féin. Alors le Sinn Féin, c'est le parti indépendantiste irlandais qui est déjà majoritaire dans la République d'Irlande et qui, aux dernières élections législatives en Ulster, est devenu dominant aussi majoritaire. Donc en fait, les républicains, même sur le territoire de la couronne britannique, sont majoritaires. Et donc, Mme Anderson est représentante du Sinn Féin, de ce parti-là, pour l'Europe. Et elle était l'épouse d'un ancien prisonnier politique qui s'appelait Paul Kavanagh. Et son militantisme pour la liberté et la République irlandaise lui a quand même déjà valu 14 ans de prison dont elle est sortie. Elle a été ensuite députée européenne et elle est donc nommée maintenant représentante du Sinn Féin pour l'Europe. Et elle va d'ailleurs le Sinn Féin va éditer un bulletin régulier en français, en anglais, en allemand sur la République irlandaise et ses ambitions. Alors voilà ce qu'elle dit dans une interview qu'elle a accordée au journal de la Libre Pensée. Elle dit « En tant que républicaine, j'ai toujours été opposée à la partition de l'Irlande. Je suis née dans un état croupion. » Donc elle est née du côté nord, en Ulster, qui ne m'a ni voulu ni accueilli et qui m'a servi une dose quotidienne de discrimination, d'oppression et de violence d'État. Bien que l'accord du Vendredi Saint, donc c'est l'accord de 1992 qui a mis fin à la lutte armée, je le précise, comporte des lacunes politiques, il offre aux républicains l'occasion de poursuivre la réunification de l'Irlande à travers un processus démocratique. Pour la première fois de notre histoire, ce sera au peuple irlandais, par référendum, de décider de l'avenir de notre pays. La majorité des électeurs britanniques ont peu ou pas de lien avec le nord de l'Irlande et une majorité d'électeurs irlandais discutent d'un accord constitutionnel différent pour l'île d'Irlande. Voilà le chemin qui est ouvert. Hein. Voilà le chemin qui est ouvert, alors qui s'est en plus d'une certaine façon élargi, puisque le fait que la Grande-Bretagne soit sortie de l'Union européenne alors que l'Irlande y est restée a compliqué les rapports, puisque vous savez qu'il y a eu toute une comédie qui dure encore maintenant pour savoir comment on faisait pour passer les marchandises d'Irlande européenne à l'Irlande du Nord qui ne l'était pas. Alors ça s'est terminé très souplement, on n'a pas remis des douanes, mais on a remis des papiers qui justifient que c'est bien une marchandise de l'Union européenne qui rentre sur le territoire britannique. Mais ça a bien montré que c'était plus possible. Le gouvernement britannique s'est demandé. Il a dit effectivement, la limite de l'Union européenne, c'est bien juste en dessous de Belfast. C'était pas praticable, hein, parce que ça mettait le feu. Bon, donc il a évité ça. Il a fait un bricolage administratif. Mais en fait, la question est posée maintenant très, très clairement, puisque je vous dis, le Sinn Féin est majoritaire des deux côtés de la barrière. La barrière n'existe plus physiquement, hein, et les Irlandais veulent être Irlandais. Alors on sait qu'ils ont payé très très cher, d'abord la guerre, avant, puisque la colonisation britannique, qui est très bien décrite par Marx à l'époque, a été redoutable, et qu'une partie de l'immigration irlandaise aux États-Unis vient, est le résultat des mauvais traitements que la Grande-Bretagne a effectués sur le peuple irlandais. Bon. Voilà. Donc c'est donc pour ouvrir cette parenthèse, c'est un moment important de l'histoire de l'Irlande, c'est un moment important y compris pour la couronne britannique, parce que ça serait un véritable échec pour elle. C'est-à-dire, même si la plus beaucoup d'appui reste sur place, bon, des unionistes farouches, des anglicans farouches, mais on sent à diverses modifications dans les législations sur les femmes, sur l'avortement et tout, que le poids des religions, qui était aussi fort d'un côté que de l'autre, il y avait une espèce d'affrontement catholique un peu traditionnaliste et anglican traditionnaliste, qui faisait que la société était bloquée et qu'on était face à une espèce de guerre de religion, dont vous savez, je ne me lasse jamais de le répéter, que ce sont les pires, parce qu'il n'y a plus de place à la rationalité dans une guerre de religion. Bon, ça s'est affaibli. Non pas qu'il n'y ait plus de catholiques et plus d'anglicans, mais ça s'est affaibli à telle enseigne que la loi de la légalisation de l'avortement à Dublin montre bien que l'Église catholique, qu'elle l'ait voulu ou non, elle ne peut plus peser d'un poids si important dans la société irlandaise. Ça, c'est une bonne chose. Et cette vérité vaut pour tout le monde, parce qu'éviter les guerres de religion, ça doit être des objectifs qu'on doit se fixer si on veut la pacification de l'humanité dans son ensemble. Voilà, c'était un petit début pour sortir de la crise ukrainienne, et ça méritait d'être dit. Et puis je vais aborder l'Ukraine par la périphérie, parce que j'avais déjà mentionné, je pense à l'automne dernier, qu'il s'était constitué une coalition pour l'interdiction et de la prolifération des armes biologiques. Alors ça ne se passait pas en Ukraine, ça se passait juste à côté, presque à côté, ça se passait au Kazakhstan, ça se passait en Lettonie, ça se passait en Géorgie et ça se passait aussi au Pakistan. Alors ça se passait comment ? C'était sous la forme d'un appel commun qui a été signé au début de 2011 entre les partis communistes donc du Pakistan, de la Géorgie et de la Lettonie. Très étonnant, une république balte, et puis parce qu'il appelle le mouvement socialiste au Kazakhstan. Il n'y a pas de parti communiste au Kazakhstan, mais il y a un parti de gauche qui s'appelle le mouvement socialiste. Et ces quatre partis s'étaient réunis sur la base. Il y a dans notre pays des laboratoires de l'armée américaine qui font des recherches sur les armes biologiques ou les vaccins, bon, dont on ne sait rien, dont nos gouvernements ne savent rien non plus, et nous considérons qu'il y a un véritable danger. Alors, ils l'avaient dit dans leur charte donc, du début de 2011, et ils ont confirmé leurs inquiétudes, donc le dernier communiqué que j'ai commun de ces quatre organismes politiques, et du 28 novembre de l'année dernière. Donc, il est tout récent, et on était avant les événements d'Ukraine, mais ils disent, alors ils donnent des lieux, ils expliquent à qui appartiennent ces labos. Donc, c'est un morceau de l'armée des États-Unis qui est chargé des recherches contre les... Alors, il s'agit... L'habillage officiel, c'est dire on a des labos pour permettre à nos soldats d'échapper à des armes biologiques des autres. Ça, c'est une jolie présentation, mais comme les gouvernements ni du Kazakhstan, ni de la Lettonie, ni de la Géorgie, ni du Pakistan n'ont accès dans ces laboratoires, hein, on leur dit c'est comme ça, et puis ça prend ou à laisser, que donc on ne sait pas à quoi ça sert, et ça ne sert pas nécessairement à protéger les soldats de l'armée des États-Unis, mais ça peut fabriquer des choses qui peuvent être des armes biologiques ou chimiques. Or, vous savez, on en a déjà parlé, vous savez qu'il y a une convention internationale pour l'interdiction des armes biologiques et chimiques, mais qu'il manque à cette convention un protocole que les États-Unis n'ont jamais signé, mettant en œuvre un système d'inspection des installations traitant ces produits chimiques et biologiques. Donc, sans contrôle, liberté de manœuvre. Ce qui s'est traduit, donc ça existe dans tous ces pays-là, vous le savez, peut-être dans d'autres, mais là on avait déjà des partis politiques officiels installés qui avaient mis le doigt dessus, et puis on a vu que c'était le cas aussi en Ukraine, ça permet d'aborder le cas ukrainien. Alors là, c'est assez énorme, puisqu'on compte non pas un ou deux labos, mais on en compte 30 ou 32. Bon. Et il se trouve que cette question des laboratoires chimiques et biologiques de l'armée des États-Unis a été mise en lumière de façon tout à fait officielle par l'armée russe qui est arrivée sur place. Et qui a dit, c'est pas seulement des observations, ils ont envoyé, alors il y a dans l'armée russe, comme dans les autres, comme dans la nôtre aussi, des spécialistes de la guerre biologique, parce qu'ils savent pas, enfin, il faut protéger des soldats ou qu'un adversaire utiliserait des armes biologiques, tout aussi interdites soient-elles. Bon. Et donc on a eu une intervention à la télévision du ministre ou du général chargé de ces armes biologiques en Russie, qui a dit, ben voilà ce que nous avons trouvé. Et ce n'est pas des racontars, ce n'est pas des scoops de la presse, c'est ce qu'ils ont trouvé en allant, en mettant le pied, le doigt dans les labos, où apparemment ils sont rentrés sans combat. On a voulu éviter peut-être qu'il y ait des fioles qui soient cassées hein, ou des bouteilles qui soient jetées dans la nature. Et donc, ils ont des documents, ils ont des échantillons. Hein. Tout ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'on a enfin la boîte de Pandore qui est ouverte. C'est-à-dire que le gouvernement des États-Unis ne pourra pas dire que ce sont des recherches uniquement pour les vaccins de la grippe. Ça ne tient pas debout. Parce que ce qu'ils ont trouvé, par exemple, c'est comment utiliser certains oiseaux pour transporter des virus ou des bactéries sur des territoires très très éloignés de l'endroit d'où les oiseaux partent. On a pensé, et vous y avez pensé puisque ça avait été évoqué au moment où on parlait de Wuhan, l'animal qui est le plus gros porteur de bactéries et de virus, c'est la chauve-souris. Or, il se trouve que dans les labos que l'armée russe vient de trouver, il y avait des chauves-souris qui étaient prêtes. Bon. Et donc, on travaillait sur comment faire porter la chauve-souris, à quelle distance va-t-elle, de quoi peut-on la charger, etc. Vous voyez donc que la guerre biologique était en préparation. Bon. Ça, c'est très, très gênant pour la position des États-Unis. Et c'est tellement gênant que la diplomatie chinoise s'en est emparée aussitôt, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, en disant « Messieurs, expliquez-vous, parce que vous nous avez dit « Wuhan, c'est vous », etc. » Mais ça, c'était bien avant. Les labos qui sont en Ukraine, il y en a 30, ils sont là depuis 10, 20 ans. Hein. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là hein. Et vous avez quand même travaillé sur des possibilités d'exporter des maladies. Alors, il n'y avait pas... Alors, le Covid, à la limite, c'était de la petite bière. Ils travaillaient aussi sur le bacille de la peste. Ça, c'est beau. La peste, je le rappelle, enfin, maintenant, il y a des vaccins, mais on ne s'en est pas servi depuis un certain temps. Mais la peste, ce n'était pas un mort sur 10 000 malades, c'était un mort sur 2 malades. Hein. C'est tout autre chose. Or, ça, ça y était dans le... Donc, l'Ukraine, j'en arrive à une espèce de conclusion sur ce sujet-là, l'Ukraine était devenue un endroit où les États-Unis faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, à l'abri des regards, avec la complicité de gouvernements qu'ils avaient eux-mêmes mis en place et qui n'osaient rien dire, puisqu'ils dépendaient dans leur survie de la présence des États-Unis, de l'argent des États-Unis et de l'encadrement des États-Unis. On pourrait... Voilà. Alors ça, c'est un sujet qu'on va réaborder. On va peut-être y passer maintenant. Vous allez voir comment les États-Unis traitent, j'allais dire, allez, soyons clairs, leur colonie, hein, puisque l'Ukraine est une colonie des États-Unis. Alors on va entendre, et ça, c'est très connu, mais vous ne l'avez peut-être jamais entendu, c'était tout de suite après le coup d'État donc, de la place centrale de Kiev, Maïdan, donc au printemps 2014. Et Mme Victoria Nuland, qui est à l'époque déjà employée diplomate des États-Unis, employée au secrétariat d'État, donc au ministère des Affaires étrangères, qui est depuis devenue secrétaire d'État numéro 2, c'est-à-dire la numéro 2 de Blinken, elle a monté en grade, mais c'est toujours elle qui est en charge du dossier ukrainien, puisqu'elle le connaît très très bien. Et la conversation téléphonique que vous allez entendre, qui a été piratée et qui est devenue publique, et ça c'est miraculeux et c'est tant mieux, cette conversation a lieu entre cette Mme Nuland, qui est donc, on le comprend, à Washington, dans son bureau, avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, qui s'appelle M. Piat, et il parle de la situation politique au moment où le nouveau pouvoir issu du coup d'État est en train de se mettre en place. Et je m'arrêterai, je citerai, alors on va l'entendre en arrière-fond, et puis comme il parle assez lentement, je ferai des commentaires en français sur ce qui est en train de se dire et sur quoi ça porte. Voilà, on y va. Il y a un petit blanc au début, je pense.
What do you think?
I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here.
Voilà. Alors, il est en train, donc c'est, on entend M. Piat, l'ambassadeur, qui mise en place du nouveau gouvernement. Il y a un personnage qui leur pose problème, qui est un monsieur qui s'appelle M. Klitschko. Klitschko, il a cette particularité d'avoir été un des acteurs du coup d'État de Maïdan, mais il a une deuxième particularité qui en fait un personnage un peu particulier, parce qu'il a été plusieurs fois champion du monde de boxe des poids lourds. Alors Klitschko, c'est un monsieur d'1m96 qui gagne tous ses combats par chaos avec un direct de la droite appuyé par un crochet de la gauche qui laisse les adversaires en très très mauvais état. Bon, finalement, on n'a pas envie de se fâcher avec ce monsieur-là, mais ça pose problème quand même à monsieur Piat et à madame Knurland qui dit « c'est pas très joli dans le tableau quand même hein ». Bon, alors, elle lui se met d'accord sur le fait qu'on va l'exclure du gouvernement, on va lui trouver un poste et elle charge l'ambassadeur d'aller lui passer la main dans le dos. Je ne sais pas comment il fait, peut-être il a des gardes du corps et tout, pour lui dire, bon, on va te trouver quelque chose, mais le gouvernement, ce n'est pas pour toi. Et Mme Knurland propose par contre de mettre un monsieur qui a été un ancien fonctionnaire à l'FMI ou à la Banque mondiale, un Ukrainien, qui va faire très joli au poste de Premier ministre, qui fera plus démocratique que M. Klitschko. Voilà. Et donc, M. Yatz. Et puis, ça continue comme ça. On continue la suite, on écoute.
Is exactly the one you made to Yatz, and I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario.
Voilà. Alors là aussi, elle insiste sur le fait qu'il y a aussi des gens, des fascistes. Et il faudrait pas trop qu'ils soient visibles dans le gouvernement. Hein, il cite un nom particulier. Donc, Piat, l'ambassadeur, dit oui, évidemment, ça fait pas joli dans le tableau. On est en train. Alors, en fait, vous vivez la réalisation d'un casting qui est pas un film hollywoodien, qui est un vrai gouvernement dans un vrai pays avec des vrais habitants. Hein, mais c'est exactement la même chose. Lui, c'est pas joli. Lui, il n'aura pas trop de public là. Il y a des gens qui vont trouver que c'est un mauvais acteur, etc. Hein, et le boxeur, ben, le boxeur, il fait peur. C'est tout. Et donc, il continue à faire peur. Mais rassurez-vous, M. Klitschko est maire de Kiev depuis. Donc, on l'a trouvé à l'occuper quand même. On continue.
Very glad he said what he said in response.
Good.
Good.
So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a
voilà.
good idea.
Voilà ce qu'elle dit là. Elle dit Klitsch parce qu'elle Klitsch ne doit pas être au gouvernement. Je suis d'accord avec toi. Ça fait tâche. C'est ça. C'est pas propre. Et elle continue.
Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking. In terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem
voilà,
is
vous entendez. Alors, il faut effectivement que dans le casting, les gens qu'on met en avant soient des démocrates modérés. Les autres seront derrière dans la coulisse, on sait ce qu'on leur doit, puisque c'est eux qui ont fait le boulot du coup d'État. Mais il faut qu'on ait une présentation, une image respectable. Donc on a sélectionné un certain nombre de démocrates, entre guillemets, qu'on va tenir. Donc vous voyez, le casting est prêt. Donc c'est à Washington que se décide la composition du gouvernement en 2014, après le coup d'État. On continue.
And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this.
I think Yatz is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week. You know.
Attendez, ça c'est grandiose, parce que le personnage qu'elle a sélectionné, donc le démocrate présentable avec une bonne expérience économique, je vous dis, au FMI je crois, elle dit quand même qu'il faut... c'est extraordinaire, elle lui dit, bon on le met lui, mais comme il n'est pas très sûr, il faut qu'il voit les autres, donc les durs. Ceux qu'on a tient dans la main, quatre fois par semaine. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, il sera obligé d'avoir une piqûre pour bien lui rappeler de qui il est l'otage. C'est ça qui se met en place sous nos yeux, enfin sous nos oreilles. On continue.
I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk, it's just not going to work.
Voilà.
Yeah, no, I think that's
là,
right.
Ce qu'elle
okay.
dit, donc Klitschko, c'est pas bon dans le tableau, hein, il faut pas qu'il y soit.
Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step?
My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yatz was going to offer in that context a three-way, you know, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it?
No, I think, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where... Klitschko has been the top dog. He's going to take a while to show up for whatever meeting they've got, and he's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it.
Voilà, donc okay. Elle dit, il faut bien ce qu'ils disent, ils sont d'accord pour les mettre. Ceux qui sont l'armature vraiment états-unienne derrière la nouvelle marionnette, le monsieur Yarksenyuk qui a été choisi comme Premier ministre, il ne faut pas qu'ils soient trop visibles comme groupe homogène. Il faut qu'ils soient là, qu'ils viennent très souvent dire ce qu'il faut faire, mais pas plus. Il ne faut pas que ce soit une opposition à l'intérieur du gouvernement. Tout est bien orchestré pour que le spectacle continue. The show must go on, comme on dit. On continue.
Good, I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after?
Okay, will do. Thanks.
Okay, I've now written... Oh, one more wrinkle for you, Jeff.
Yeah.
Elle revient sur un autre sujet, vous allez voir.
I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN
voilà.
guy.
Alors là, il s'agit du représentant. Monsieur Feltman, c'est le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité à l'ONU. Et il faut choisir le personnage que l'ONU va envoyer sur place pour faire montrer que c'est très présentable, ce nouveau gouvernement démocratique, etc. Et elle lui donne le nom qui a été proposé par Washington à M. Ban Ki-moon, que M. Ban Ki-moon va évidemment approuver. Hein, alors on entend le nom après.
Seri, did I write
yeah.
you that this
Monsieur
morning?
Seri, voilà.
Yeah, I saw that.
He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday.
Voilà, alors c'est okay. Le lendemain, hein, ça y est, c'est plié, on n'en parle plus.
So that would be great, I think, to help glue it.
Great, oui, bien sûr.
Have the UN help alors, glue it. And, you know,
écoutez
fuck
bien.
The EU.
Attends, écoutez, je m'arrête là-dessus. Écoutez bien. Alors, les Nations Unies en font leur boulot, puisque de toute façon, Ban Ki-moon, on lui fait faire ce qu'on veut. On l'a vu en Côte d'Ivoire, par exemple, on s'en souvient. Bon. Et donc, par contre, alors, elle met le mot qui est connu parce qu'il a fait le tour du monde, enfin, au moins des gens qui veulent l'écouter. Fuck the EU, c'est-à-dire, hein, fuck, vous savez ce que ça veut dire, je ne traduis pas, l'Union européenne, c'est-à-dire, c'est nous qui faisons le casting, les Européens nous embêtent, on n'a rien à voir avec eux, on n'a aucun compte à leur rendre, ils sont à notre botte, et bien fait pour eux si ça ne leur plaît pas. C'est tout, hein, elle l'a dit, elle le pense, et tous leurs gestes vont dans le même sens, c'est-à-dire, ça ne compte pas. Et je vais venir un peu plus longtemps là-dessus après une petite... Mais écoutez, alors, ça se trouve assez facilement sur Internet, hein, vous mettez, donc, Nuland Pyat, le nom de l'ambassadeur, c'est un P-Y-A-2-T, et vous trouvez assez vite la vidéo sur YouTube. Elle a été mise en musique par un groupe de rock qui a sorti l'enregistrement de quelques mesures de musique. C'est miraculeux que cette conversation ait fuité, et en même temps, c'est une leçon de choses extraordinaire sur la façon dont les coups d'État s'organisent et sur la façon dont tout d'un coup, une équipe gouvernementale dont vous n'avez pas idée la veille va sortir sur les écrans, sur les tribunes, saturer l'espace médiatique, vous n'aurez rien compris. Mais si, parce qu'il y a derrière un réalisateur, un metteur en scène qui a fait le travail, qui a sélectionné les acteurs et qui les a choisis. C'est la même chose d'ailleurs pour M. Zelensky dont on va reparler. Mais pour faire une petite pause musicale, pour vous remettre de cette émotion d'avoir entendu Mme Nuland organiser le gouvernement ukrainien, on va écouter une chanson sur Bobby Sands, qui est la numéro 2, je crois, sur la clé. C'est ça. Alors Bobby Sands, je le rappelle, c'est un adversaire, enfin, c'est un républicain irlandais qui a milité pour l'indépendance de l'Irlande du Nord et qui a été pris, qui a été emprisonné, qui a fait une grève de la faim avec ses camarades emprisonnés et que Mme Thatcher, qui était au pouvoir à Londres à l'époque, a laissé mourir de faim.
Les chansons des rues de Belfast ont le même parfum d'Irlande. Elles pleurent comme le ciel de Belfast, comme ont pleuré les yeux de Bobby Sands. Les chansons d'amour en Ulster font briller les yeux des filles, parfois oublier l'Angleterre, les militaires stationnés pour la vie. Les chansons de guerre à Belfast sont piégées de haine farouche, pour hurler à la gueule d'en face, pour eux il restera toujours une cartouche. Chantez plus fort que le mot. les chansons d'Irlande du Nord se souviennent d'une dame de fer qui s'était jurée de les voir. Un passeport catholique bon pour l'enfer. Les chansons des pubs de Belfast trouvent même la bière militante. Vivre c'est tant bien moins néfaste que l'arrogance de la classe protestante. Chantez plus fort que le monde vous entende, jurez à mort l'insolente, luttez encore comme pour l'indépendance.
C'était Soldat Louis qui chantait. Et si vous voulez écouter une autre musique emblématique de la lutte irlandaise, vous pouvez écouter la chanson de U2 qui s'appelle Bloody Sunday, qui fait référence aux événements donc dramatiques des années 70-72, de la partie guerrière, disons, la partie armée de la lutte de libération. Voilà. Revenons donc à notre Ukraine, enfin à l'Ukraine. Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, insister pour bien comprendre ce qui se passe du point de vue militaire, c'est que la campagne russe n'est pas une campagne de destruction de l'Ukraine, c'est une campagne de mise au pas de l'armée ukrainienne et de ses éléments les plus dangereux. Ce qui veut dire... Alors, regardez la télévision, on vous parle de l'Ukraine, mais est-ce que vous pouvez trouver des images sur la télévision analogues à ce que vous avez vu en abondance, tout le temps, à Gaza, à Damas, à Alep, de rues désertées avec des immeubles cassés d'un bout à l'autre et tout. Non, ce n'est pas ça qui se passe. On a monté, la propagande occidentale monte 2-3 coups. Alors il y a la maternité de Mariupol, il y a un théâtre ici et là et tout, qui sont tous des coups montés pour la télévision, mais il n'y a pas de destruction systématique du pays. Il y a un autre phénomène, on ne va pas vous montrer. Alors vous savez que l'Ukraine est un gros producteur de blé, à l'égal de la Russie d'ailleurs, parce qu'elle dispose sur son territoire des terres qu'on appelle les fameuses terres noires, qui sont des terres, alors c'est très intéressant les terres noires, et c'est assez rare puisqu'il y en a une bonne partie dans le monde en Ukraine, le reste qui se continue sur la partie sud de la Russie et un peu jusqu'au Kazakhstan, c'est un endroit très particulier où l'humus, c'est la couche superficielle qui est fertile, qui est constituée par la décomposition des organes végétaux, où l'humus peut aller jusqu'à 6 mètres d'épaisseur. Donc il s'agit des terres les plus productrices du monde. Hein, les terres noires, on les appelle pas Tchernozium, hein, c'est ça. Bon, alors ces terres noires servent à produire un blé de qualité et en grosse quantité, Et imaginez que la Russie ait décidé de détruire l'Ukraine et de tuer les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle aurait passé au napalm, hein, on connaît des exemples de passage au napalm, l'ensemble des champs de blé. Alors c'est du blé d'hiver, il va commencer à sortir dans quelques jours de terre, ça va commencer à dégeler un peu. Et donc si l'armée russe avait décidé que les Ukrainiens allaient mourir de faim, voilà ce qu'elle aurait fait. Elle ne le fait pas. Hein. Elle a des objectifs tout à fait particuliers qui sont effectivement de détruire les zones de commandement, de détruire, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le camp Yavorov, qui est un camp donc, qui était à la limite de la frontière polonaise, où les mercenaires étrangers, les conseillers militaires étrangers venaient se préparer à rentrer dans la bataille. Et là, l'armée russe intervient. Et donc, elle a tiré des missiles sur le camp Yavorov il y a quelques jours. Et donc, elle a éliminé à peu près 200 combattants qui venaient de l'extérieur pour combattre contre l'armée russe. C'est tout à fait clair. Il y en aura d'autres, j'en parlerai. Mais donc, les mouvements militaires sont de ce type-là. Les mouvements militaires ont constitué à les surveiller et prendre en charge les laboratoires pharmaceutiques, je l'ai dit, à prendre en charge les principales installations nucléaires, à savoir celle de Tchernobyl et celle de Zaporoïe. Alors, pourquoi Tchernobyl ? Je rappelle, tout le monde le sait, qu'il y a un des groupes, une des centrales nucléaires de Tchernobyl qui a explosé. Elle est depuis sous une énorme masse de béton, en espérant qu'il n'y aura pas trop de rayonnement, trop de radiations qui s'en échapperont. Mais le reste des installations de Tchernobyl continue à être là. Et de fait qu'il y a eu cette contamination et que c'est une zone considérée encore comme dangereuse, l'armée ukrainienne et sans doute beaucoup de conseillers étrangers pouvaient s'y livrer à toutes sortes d'activités expérimentales ou de recherche sans aucun contrôle. La zone était totalement interdite. Bon. Le 25 février, l'armée russe a pris possession de Tchernobyl pour éviter que des bêtises ne soient faites. Et des bêtises avec une centrale nucléaire, c'est à la limite plus grave que quelques chauves-souris qui s'en vont avec des bacilles. Donc ça, c'est fait. Donc c'est ça, la guerre. C'est maîtriser les endroits qui risquaient de poser de gros problèmes à la population, non seulement locale. Vous savez que les phénomènes radioactifs ont une diffusion mondiale. C'est pour ça que les essais nucléaires dans l'atmosphère ont été interdits il y a fort longtemps. Même chose pour les bactéries et les virus. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Éviter des dégâts dramatiques. Parce qu'on a affaire quand même à de drôles de gens. J'en cite un exemple qui met le doigt sur la question de la position de l'Europe là-dessus. Et il existait un monsieur dont le nom importe peu, qui était un néo-nazi portugais. Ce monsieur avait été impliqué dans l'assassinat par une bande de skinheads d'un citoyen donc africain qui était du Cap-Vert. Hein, donc vous imaginez qu'il était de couleur noire. Hein. Et comme il n'était pas seul impliqué, puisqu'il y avait une bande de skins, il était au milieu, il n'a fait que 4 ans de prison. Et il en est sorti. Et sa sortie a été assortie d'une mesure de contrôle judiciaire, c'est-à-dire comme dans le cas qu'on connaît chez nous, contrôle judiciaire, c'est une fois par jour, une fois par semaine, on va au commissariat de police, on ne peut pas s'éloigner. Eh bien, le contrôle judiciaire de ce monsieur vient d'être levé par l'État portugais, parce que ce monsieur va aller combattre en Ukraine. Voilà. Donc, on facilite l'Europe et ce gouvernement portugais, je pense qu'il n'a pas trouvé ça tout seul, facilite l'arrivée de combattants fascistes dans les rangs des fascistes ukrainiens. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre qui est en train de se mener est une guerre dans laquelle les fascistes affrontent l'État russe. Et c'est exactement ce que le président russe dit. Hein. Moi, je ne veux pas de peine, je ne veux pas de mal aux Ukrainiens. Je ne veux simplement pas avoir un gouvernement de fascistes en face de nous. Et vous avez vu, il n'a même pas les regrets qu'à Mme Nuland. Nuland, elle dit, bon, Klitschko et sa bande, là, ils ne sont pas trop présentables, on ne les veut pas. Mais tout le monde sait qu'ils sont là, ils sont restés au poste du pouvoir et ils occupent les positions les plus importantes dans l'armée, ou moins ils constituent les unités les plus violentes qui sont dans l'armée ukrainienne ou ce qu'il en reste. Voilà pour la situation militaire. Mais je voudrais revenir aussi à un autre aspect qui a pris un tour dramatique ces derniers jours. Il s'agit de la démographie. Vous avez vu apparaître sur vos écrans et dans vos journaux un chiffre énorme, 10 millions de réfugiés ukrainiens attendus. Alors, ce n'était pas très très clair, c'était d'ailleurs soit des déplacés sur le territoire, parce que c'est la suite de ce que je vous dis, il y a des zones où il n'y a pas du tout de combat. Il y a des zones, en particulier dans l'ouest de l'Ukraine, où il ne se passe rien au niveau militaire. La vie, ben on sait qu'il se passe quelque chose, mais la vie est normale. Bon, mais 10 millions d'Ukrainiens qui s'en vont, ça ne passe pas inaperçu. C'est un rendez-vous comme c'est pire, beaucoup pire que l'exode des Français au mois de juin 40. Ça n'a rien à voir. C'est monstrueux, 10 millions de personnes qui sont. D'autant plus qu'on ne s'en va pas à travers champs. On prend des routes, on prend des ponts. Donc ça se concentre. Donc c'est visible. Alors, je rapporte ce chiffre à la population ukrainienne telle qu'elle était et telle qu'elle est. Parce que là, on est dans des données qui n'ont pas été falsifiées pour les besoins de la propagande. Bon, quand l'Ukraine devient indépendante, donc on est en 1991, il y a 52 millions d'Ukrainiens. Bon. Le chiffre que j'ai sous les yeux pour 2021, donc là encore une période calme, disons, la population n'est plus de 41,6 millions. Donc il est parti déjà 10 400 000 personnes. Alors effectivement, vous allez dire, sur 20 ans, ils ont pris le temps. Effectivement, on n'a pas vu arriver des énormes vagues de réfugiés en souffrance et tout. Il en est parti un peu partout. Il en est parti en Russie, on le sait, puisqu'il y en a qui avaient de la famille ou qui étaient russophones, donc ils se trouvaient à l'aise en Russie, où ils ont été accueillis. Il y en a qui sont partis en Pologne, il y en a qui sont partis au Canada, il y en a qui sont partis aux États-Unis. Enfin, il y en a un peu partout. Donc, les 10 millions de personnes sont effectivement partis. Alors, sur celles-là, on pense qu'il y en a qui reviendront peut-être, mais ben, il y en a qu'au moins 7 ou 8 millions qui ne reviendront jamais, qui ont fait leur vie ailleurs. Et puis, c'est comme ça, les vies dans des pays qui ont souffert. Bon. Mais je donne bien l'échelle. Hein, 91-2021, c'est pas même 20 ans, c'est 30 ans pour faire partir 10 millions de personnes. Quand on vous annonce qu'il va partir dans les jours qui viennent 10 millions de personnes, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est pas un pont à rien. Il faut fretter des trains à longueur de journée pendant des jours et des jours. Et pour les mettre où ? Parce qu'on peut accueillir, alors on accueille des réfugiés, mal souvent, mais 10 millions de personnes, personne ne sait faire. Hein. En plus, je pense que personne ne veut. Hein. Donc on vous met ce chiffre qui est monstrueux et qui est faux hein, sous les yeux pour vous dire, mon Dieu, qu'ils sont malheureux hein. Mais ça n'a absolument aucun sens. Ou alors, il faudrait que les propagandistes ou les menteurs qui mettent en circulation ce genre d'informations disent « Mais on a 10 millions de postes de travail, on a 10 millions de logements neufs pour les accueillir. » Alors, en faisant l'addition sur toute l'Europe, etc., personne ne s'est risqué à faire la deuxième partie du raisonnement. Donc, on vous jette, il y a 10 millions de réfugiés. Ça va amener, alors, s'ils partent vraiment, ça va amener cette République, qui est grande comme la République française, à 30 millions d'habitants. C'est pas beaucoup. Et qu'est-ce qui... Alors, pourquoi ils sont partis ? Alors, pourquoi ils sont partis dans des conditions qui sont plus difficiles que les conditions qui leur sont offertes maintenant, puisque vous savez que nos bras sont ouverts pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Il y a des drapeaux ukrainiens sur les républiques, sur les préfectures de la République française. Les services d'accueil aux étrangers dans les préfectures, on a des témoins, effectivement, sont très ouverts à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Bon, alors, ils vont venir. Mais pourquoi ils sont partis ? Alors, je vais vous donner quelques éléments de l'économie ukrainienne. Le produit intérieur brut de la République donc socialiste d'Ukraine en 1991, c'est de 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est de 300 milliards de dollars. Hein, c'est 200 milliards de dollars de moins. Alors ça, c'est le résultat brut. Bon. Ça se traduit, enfin, c'est la traduction plutôt, de toute une série d'effondrements économiques dont je vous donne quelques éléments. En 1991, l'Ukraine produit 779 milliards de kilowattheures. Aujourd'hui, elle n'en produit plus que 160. Hein, ouais, donc un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié. Au niveau du charbon, la production de charbon a diminué de trois fois. C'est-à-dire quand vous aviez une tonne de charbon, hein, vous n'avez plus que 300 kilos de charbon. La production d'acier a diminué de 2,5 fois. La production des tracteurs a diminué 66 fois. Ça veut dire, alors, c'est les usines qui ont fermé, c'est tout. Il n'y a plus d'usines de tracteurs, un point à la ligne, c'est tout. La production de voitures a diminué de 27 fois. La production de camions a diminué de 17 fois. Bon. Les places dans les hôpitaux sont passées de 4 millions à 1,7 million. Donc on a une véritable catastrophe économique humanitaire qui dure depuis 1991 et on fait des discours sur les méfaits de l'armée russe. C'est vraiment se moquer complètement du monde. Au niveau du nombre de classes, on a perdu 5 millions de classes à l'école. Enfin, tout est à l'avenant. Mais ces gens-là sont partis. Les 10 millions qui sont déjà partis, ils sont partis parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de travail, les usines fermées. Et le peu d'activité qu'il y avait était entre les mains de ces fameux oligarques ukrainiens qui ne se préoccupaient que de faire de l'argent, mais pas du tout de l'avenir de leur peuple. Et ces milliardaires ukrainiens, ils étaient au gouvernement. Monsieur Porochenko était un milliardaire. Le monsieur qui tire les ficelles de monsieur Zelensky, monsieur Kolomoïski, est un milliardaire. Mais c'est des milliardaires qui ne pensent qu'à s'enrichir. Ils ont même pas le souci de faire une production rentable, de produire des biens de consommation pour la population. Regardez dans quoi se trouve cette population. Il ne se passe plus rien. L'Ukraine est un espèce de mort-vivant. Et donc la population, qu'elle fait, elle sauve sa peau, c'est tout.
C'est la raison pour laquelle l'Union européenne ne veut pas de l'Ukraine.
Ben oui, parce qu'il faudra reconstruire tout ça. Vous savez qu'effectivement, tu as raison, les conditions d'accès à l'Union européenne sont quand même assez rigides, fixées, et puis on veut accueillir un pays qui est à peu près en ordre de marche. Et ça prend souvent quelques temps. Il y a une période transitoire, il faut faire un état des lieux. L'état des lieux, je viens de vous le faire, il est catastrophique, l'état des lieux. Bon, heureusement, ils ont sauvé la production de blé qui tient à peu près la route. Donc voilà ce qui a amené. Alors, je ne sais pas, les 10 millions qui ont envie de partir, peut-être c'est exactement pour les mêmes raisons. La guerre y ajoute son danger à elle, mais en fait, ils savent bien que de toute façon, alors, en plus, les destructions supplémentaires organisées, suscitées par la guerre, vont rendre encore plus difficile la vie quotidienne sur place. Donc, partons. Mais le mouvement était déjà lancé, et là, personne ne nous a alertés. On ne nous a pas fait donner un centime, un vêtement, pour rien du tout, pour ces 10 millions de personnes. Alors on sait qu'il y en a un peu en France, on sait qu'il y en a un peu ici, mais c'est tout. Et eux, ils sont arrivés, ils ont pris des risques, parce qu'on ne les accueillait pas si bien il y a 10 ans, il y a 15 ans. Non. Alors il y en a qui ont passé à travers, ils ont réussi, tant mieux pour eux, on leur souhaite d'être bien là. Bon, on ne leur veut pas de mal, pas plus, mais on aimerait bien. Alors, c'est ce que je voulais tirer comme conclusion, c'est que quand le monsieur, le portugais, là, vient parce qu'il a sur les mains du sang d'un Africain dont la couleur ne lui plaisait pas, il est très révélateur d'une attitude générale par rapport aux réfugiés. C'est-à-dire que encore ces jours-ci, il est mort en Méditerranée un certain nombre d'Africains, dont une majorité de mineurs qui étaient ivoiriens, guinéens, etc. Bon, le classique, qui ont été récupérés pour partie par le bateau de Médecins sans frontières. Mais ceux-là, ils vont être accueillis comment et où et par qui? Et est-ce qu'on fera des collectes? Et est-ce qu'il y aura un drapeau guinéen ou ivoirien sur la façade de la préfecture de Marseille? Non, il n'y aura pas. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne nous intéressent pas. Et à la limite, s'ils pouvaient ne pas venir, pas moi, mais il y a des gens qui se frotteraient les mains. Par contre, les Ukrainiens, bien sûr, ils sont blancs, ils passeront inaperçus. C'est l'évidence. La deuxième évidence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un représentant du MEDEF qui le dit. Le haut niveau de la formation professionnelle qui était administrée du temps de l'Union soviétique pour la population fait qu'un ingénieur ou un technicien ou un ouvrier qualifié ukrainien est plus, parce qu'il a travaillé dans des usines qui étaient modernes pour l'époque, pour ce qu'il en reste aujourd'hui, et donc il est plus facilement adaptable à des postes dans des usines contemporaines qu'un paysan ivoirien ou guinéen qui arrive et qui veut seulement manger tous les jours et qui n'a pas eu de formation professionnelle. Bon, c'est ça qui se passe. Donc on a une espèce d'illustration d'un racisme qui est doublé de colonialisme, puisque l'Ukraine n'avait pas été colonisée. Mais maintenant, elle l'est. Et je vais m'arrêter sur cette question-là. Maintenant, elle l'est. Alors, pourquoi elle l'est? Parce qu'effectivement, les États-Unis ont décidé de faire de l'Ukraine l'endroit où on pourrait faire des difficultés à la Russie et effectivement commencer à faire éclater la Russie, ce qui est le souhait des États-Unis depuis très très longtemps. Et moi, je pense que ce souhait des États-Unis de faire éclater la Russie, il remonte à la Première Guerre mondiale. Alors, pas tout au début, parce qu'effectivement, c'était le tsar, ils n'y avaient pas pensé, mais à partir du moment où ils voient arriver un régime socialiste qui s'affirme et qui même s'étend, puisque l'URSS, c'est plus grand que la Russie, puisque l'URSS, c'est justement l'Ukraine, le Kazakhstan, le Ouzbékistan, etc. Ils ne veulent absolument... C'est un cauchemar dont ils ne se sont jamais séparés. Donc l'Ukraine était un pion très intéressant pour avancer dans la réalisation de cette élimination. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que ça devient encore plus précis. Les États-Unis sont à la tête, ils sont à la tête de l'OTAN, ça on le sait, et puis ils sont les inspirateurs de l'Union européenne, qu'ils ont aidé à construire dès le début, Union européenne qui a mis dans sa constitution, on va dire, dans le traité de Lisbonne, le fait que la défense de l'Union européenne est organisée dans le cadre de l'OTAN. Ça, c'est limpide, c'est écrit dans le texte. Alors, on a laissé de côté, parce qu'ils étaient là au début, les Irlandais dont je parlais, les Finnois, parce qu'ils étaient là, on les a pris, les Autrichiens, parce qu'on s'était mis d'accord pour qu'ils ne soient pas dans l'OTAN. Mais en gros, maintenant, et ça s'est vérifié, tous les États qui sont rentrés dans l'Union européenne après 1991 sont d'abord rentrés dans l'OTAN. En commençant par la première série, la Pologne, et puis jusqu'à Bulgarie, Roumanie. C'était la condition. Sinon, vous ne rentrez pas. Et même, il se passe des situations inverses. Quand vous êtes le Monténégro, petit pays de 600 000 habitants, ou la Macédoine du Nord, pays de 2 millions d'habitants, vous rentrez d'abord dans l'OTAN, et l'UE vous prendra quand elle aura le temps, ou qu'elle considérera que vous remplissez les conditions. C'est ça la logique. Bon. Alors, ce que voulaient éviter donc les États-Unis, c'est très clair, c'est faire de l'Ukraine un État dont ils auraient la totale maîtrise, voire Mme Nuland et M. Piat, et qui n'auraient pas besoin de prendre des formes, de demander l'avis des Européens, de demander des alliés dans l'OTAN, etc. Ça, c'est fini, il n'y a pas besoin. Donc, c'est les États-Unis qui gouvernent, c'est les États-Unis qui ont décidé qu'ils faisaient faire à l'Ukraine ce qu'ils voulaient. Et M. Zelensky, je vais finir là-dessus, est en train de s'en rendre compte. Parce que qu'est-ce qu'il a dit hier à CNN ? Eh bien, il a dit « J'ai demandé personnellement qu'on me dise très clairement si on était prêt à rentrer, à me prendre dans l'OTAN ou pas ». Eh bien, la réponse, elle est très claire. On ne sera pas membre de l'OTAN et de l'Union européenne. On me l'a dit, les portes sont fermées. Et t'aurais dû t'en rendre compte un peu plus tôt, petit. Hein, parce que c'était prévu dès le début. Les États-Unis voulaient avoir les coudées franches, voulaient maîtriser le jeu. Et donc, hein, je reprends Mme Nuland, mais je ne parle pas son vocabulaire. « Fuck the EU ». Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Et puis, on en reparlera certainement la semaine prochaine parce que l'affaire n'est pas finie. Et elle prend quand même un tour intéressant puisqu'il y a quand même de vraies négociations. J'en dis juste un mot, dont le bilan qui est fait par la Russie, c'est de dire du côté de la reconnaissance de la neutralité de l'Ukraine, ça progresse dans l'esprit de la délégation de Zelensky. Du côté de l'élimination des nazis, ça ne progresse pas, bien entendu, parce que les nazis font peur à ceux qui les tiennent par derrière. Voilà. Merci de votre attention. Merci Sidi. Et maintenant, place à la musique.